Jarre. Si tu vois la jarre accrochée là-haut, c'est moi. Approche-toi, touche-moi, secoue-la, brise-moi sur ta tête. Je t'inonderai d'eau et je m'en remplirai.
Je veux bien qu'on parle de traduction maintenant, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as une poésie plutôt métaphorique en fait, où le sens se devine entre les lignes, plutôt qu'une affirmation directe. Comment arriver à reproduire en fait une musicalité à travers une traduction ? Est-ce que toi tu as un contrôle sur la traduction par exemple ?
J'ai eu la chance par rapport à ce premier recueil de discuter en fait, en amont et à la fin. Ça veut dire, parce que c'est moi qui ai d'abord traduit, vraiment une traduction peut-être basique. Après, j'ai discuté la traduction avec des amis qui étaient avec moi dans l'atelier d'écriture, qui est un poète qui s'appelle Jean-Rémy Gondon et sa femme Sandrine Gondon. On a fait presque des ateliers de traduction.
Oui, parce que l'idée, c'est pas de traduire littéralement. L'idée,
non,
c'est de
exactement.
Faire de la poésie,
oui.
Même dans la traduction.
Oui, et du coup, c'était chouette pour moi de discuter mes poèmes. J'ai eu la chance de pouvoir discuter qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que ça peut être en français. Et tout ça, ça m'a fait apprendre beaucoup sur... Déjà, ça m'a fait... Une première fois que je commençais à analyser mes textes, pourquoi j'ai écrit ça, qu'est-ce que je voulais dire, est-ce que j'avais un sentiment, c'est quoi l'image donnée, l'image souhaitée, présentée, et discuter avec des poètes. Qu'est-ce que ça peut être en français. Après le premier livre, comme si c'était travaillé à ce niveau-là, c'était pas beaucoup de pages en fait, c'était un ouvrage simple avec des poèmes aussi qui peuvent être qui ont des idées claires qui peuvent être transmises en français ou traduites. Il y a d'autres textes peut-être qui sont plus difficiles, j'ai pas choisi ça. Du coup, le choix aussi, c'est le choix déjà était pour jouer sur l'harmonie. Que ce soit de certaines manières, parce que l'harmonie, c'est pas, faut pas trop chercher non plus l'harmonie. L'harmonie, ça peut se trouver entre les lignes aussi. Et que des poètes qui... des poèmes, pardon. Je vais pas mettre des poètes dans mon livre. Hein. des poèmes qui sont qui ont une idée. C'est pas que la langue. Il y a des poèmes qui sont très propres. Qui trouvent leur force dans la langue maternelle, la langue d'écriture, et il faut soit pas traduire, soit un traducteur très avéré pour les faire. Et du coup, j'ai écarté ce genre de poème, et j'ai travaillé des textes qui ont une idée qui peuvent être universelles.
T'écris toujours en arabe, c'est-à-dire ça te vient en arabe, l'inspiration
Mais l'inspiration, ça peut venir aussi en français, des fois en anglais. Hein. Des fois en anglais, mais j'ai pas un niveau anglais très important, mais des fois les mots viennent comme ça. C'est comme des phrases qui se construisent. Ça commence par un mot. Je me donne la liberté de continuer. Surtout maintenant avec la poésie courte, tu peux faire en fait un texte. Ça dépend qu'est-ce qu'on peut définir comme poème. C'est pas pareil quand on dit un poème qu'on écrit et un poème qu'on met dans un livre ou comme... En tout cas, les choses sont changées maintenant. Même les poèmes actuellement, sont vraiment très courts dans la poésie française. Dans les livres qui sont publiés, je voulais dire. Et ça peut m'arriver, oui, dans le français, de commencer une phrase. Parce que moi, je vis en France, donc c'est normal que je sois des fois inspirée par des proverbes, des blagues, des passages qui me poussent à continuer pour voir qu'est-ce que ça peut donner. C'est pas par curiosité, mais parce que vraiment, j'ai le sentiment que ça, c'est une phrase qui mérite d'être arrêtée ou qui m'a touchée, en fait. On m'a touché quelque chose en moi, intellectuellement, linguistiquement, et j'ai envie de suivre où est-ce qu'elle peut aller.
Ouais, je suis assez curieux de ça, mais pour comprendre si c'est ta pensée, c'est-à-dire tu penses dans la langue que tu vas utiliser, ou alors déjà il y a une idée de traduction, c'est-à-dire quand tu écris par exemple en français, tu penses en français à ce moment-là, ou tu peux penser en arabe et d'un coup écrire en français par exemple.
J'ai jamais pensé à ça, parce qu'on dit, parce que par exemple quand je compte en arabe. Par exemple, quand je travaille, ou là, je dois compter des étudiants ou compter des... pas à haute voix, mais...
Dans ta tête, c'est en arabe, quoi.
Oui, surtout quand ça dépasse le 10, parce que sinon, c'est... Je veux dire, je peux dire... Et pourquoi je dis que je pense en français ? Parce que c'est plus simple, ce que j'écris. Du coup, je limite mes pensées aussi à ce que j'ai comme langue. comme un mot, comme comme registre linguistique. Du coup, là, comme un enfant, moi je dis toujours, comme un enfant qui essaye d'écrire dans les langues, dans la langue en fait, qu'il apprend. Et je m'amuse en fait de le faire. Est-ce que c'est beau ou pas ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bien ou pas ? Je sais pas, mais c'est important pour moi d'être un peu fidèle au moment de l'inspiration et comment et à cette idée-là, quoi, de suivre, de donner valeur à cette à ce moment-là, à cette phrase qui m'a inspirée, à ce moment, surtout le moment en fait, le moment qui construit de le sentiment, les idées, la phrase et l'envie de d'écrire.
Je rebondis parce que tu viens de parler de l'enfance, là, comme un enfant, tu disais, et c'est vrai que l'un de tes recueils, c'est Pierre, feuille, ciseau, donc ça évoque justement un jeu d'enfant. Toi, tu l'as transformé en vague, mon ciseau.
Je connais, oui. En fait, j'ai jamais joué, je pense, mais c'est connu dans le monde arabe aussi.
Et ça s'appelle vague, mon ciseau,
non,
ou pas du
non,
tout?
Non, ça s'appelle comme ici, Pierre, feuille, ciseau. Waraqa, hajar, miqas. Pour moi, ça a commencé d'abord, je sais pas, c'était pas facile de choisir un titre en français. Parce que l'idée, c'est de vraiment d'être édité en France. Du coup, le titre, d'abord, il faut le choisir en français. Dans le livre, je voulais pas forcément parler de la guerre, le titre, pardon. Mais en même temps, j'ai aperçu ou j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de la mer dans mes écritures. Et même dans le livre que je prépare maintenant, je ne peux pas échapper à ça apparemment. Et cette question de vague, je pense que ça correspond beaucoup à moi en fait. La question de la vague en général. La mer, c'est grand comme concept, mais quand on parle des éléments, qui façonnent la mer, là, on commence dans l'analyse poétique presque. Les poissons, les vagues, la profondeur, la surface, le reflet du soleil, plein de choses. Il y a aussi un côté très d'actualité, touristique, transport. Même si j'ai fait un master en droit des transports.
Tu vois, il y avait un lien.
Peut-être que je me suis trompée, mais en fait, vaguement, ça m'a sonné pour moi comme vaguement. Comme vaguement, en fait. C'est ce que je prononce bien, oui. Adverbe vaguement. Et pour cela, j'ai mis mon, pas montagne. Et même si c'est plus court, c'est plus joli de mettre mon comme montagne, vague, montagne, ciseau. Oui. Et ciseau, voilà, c'est tombé. C'est, le fait de dire vaguement et ciseau, ça m'a... Ciseau, c'est tombé bien parce que c'est l'idée, c'est la coupure en fait entre les et le sang un peu et là voilà. Du coup, et j'aime bien ce côté jouer un peu des mots et quand on commence à jouer des mots, c'est normal de choisir un titre qui a une connotation, je veux dire, au lien avec les jeux d'enfants. Ouais. Rajulun fi qa' al-bahri. Rajulun fi qa' al-bahri, un homme au fond de la mer. Nazarat tahfur ta'akul an-nour. رئة مخنوقة بالماء جلد معطر برائحة سمك ظهر مستلق بموازاة لقالق العالم كله عنق متموج نباتات بزيدون وأشنات خضر لامعة مياه ممتدة نحو الأزل نجوم من الفوسفور دم بطعم الزعفران والملح رجل في قاع البحر هل يرى قعر سفينة كما نحن نرى السماء الزرقاء في وضح النهار بكامل النفس رجل في قاع البحر حفرة نحو الأبدية ماسة من لحم وحجر في رأس الصخرة البحرية المدبب كان ينشب وجه طفل ثم يعود ليختفي مع الموجة أوهام بحرية هكذا صارت تمر الأحلام والرؤى بينما أنت تتمشى على ضفاف البحر
Dans le premier poème de Vague Mon Ciseau, qui s'appelle Les larmes de la mer, tu déploies une métaphore autour de la mer et du poisson que tu présentes presque comme une origine des Syriens, Syriennes, revenir peut-être à un état archaïque, presque préhumain, comme si la catastrophe faisait régresser l'humanité.
Cette question, même si c'était la Syrie qui n'était pas abordée par la Méditerranée, je pense que c'était pareil, mais parce que surtout l'immigration aussi, ça passe par la mer un peu, souvent, même des pays qui ne dorment pas sur la mer, mais ils traversent d'autres pays encalvés, on dit
enclavés.
Enclavés, oui, pour arriver à la mer et se jeter comme des poissons. Alors, cette catastrophe qui arrive des fois par la catastrophe, en fait, commence déjà par le besoin humanitaire de fuir une guerre pour être sauvé économiquement, humanitairement, trouver la sécurité. Tout ça, c'est la catastrophe qui commence là, mais la catastrophe, ça peut se caractériser davantage quand il y a des noyades collectives ou individuelles. Et par la mer, qui cet absolu-là, qui présente cette catastrophe dans la meilleure, dans la plus grande image, par là, je ne peux pas ne pas réfléchir à un truc qui est apocalyptique de certaines manières. Et dans ce poème-là, je parle des Syriens parce que je suis syrienne, mais ça peut être autre chose, ça peut être autre peuple, en tout cas. Et même le mot syrien, ça peut aussi faire référence à un truc archaïque, une civilisation. Qu'est-ce que ça peut être syrien? D'ailleurs, il y a un livre d'un poète tunisien qui s'appelle Les Syriens. C'était okay. Intéressant, oui. Donc, chaque mot, si on le redit, si on le réfléchit à nouveau, ça peut donner plein de significations historiques et poétiques aussi.
C'est vrai que j'ai pensé aussi à Alan Kurdi, petit Syrien kurde de 3 ans qui a été retrouvé sans vie sur une plage turque et qui a été photographié en septembre 2015, et cette image avait bouleversé le monde. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est plus l'image que la réalité. Toi, tu as eu le sentiment que cette photo avait réellement changé le regard porté sur les exilés syriens-syriennes, ou au contraire, qu'elle était devenue une émotion médiatique parmi tant d'autres?
La photo de l'enfant syrien retrouvé mort sur une plage de Turquie a fait le tour du monde. Elle a choqué toute l'Europe notamment. Les obsèques du petit garçon de 3 ans, de son frère et de leur mère ont lieu ce matin dans la ville syrienne de Kobané. Ils sont tous décédés en tentant de quitter la Turquie pour la Grèce. On écoute le père qui a perdu sa famille.
Khalib est mort le premier. Ensuite, ce fut au tour d'Alan et puis leur mère. Voilà mon histoire. J'espère qu'elle servira de leçon dans ce monde. J'espère qu'on aidera ces gens, qu'on arrêtera tous ces massacres. Nous sommes tous des êtres humains, comme les Occidentaux. Pourquoi on va en Europe alors que notre pays est bien plus beau? C'est comme ça.
Et puis on vient de l'apprendre, ce nouveau drame, au moins 30 migrants sont portés disparus au large de la Libye, selon l'Office international de la migration.
Les deux, ça peut, des fois c'est complémentaire, mais bon, c'est quand c'est médiatisé, ça change un peu le regard, pourquoi pas. Après, parce que des fois ils sont médiatisés et ils changent le regard vers le pire, vers la banalité ou la consommation. Et quand on met en avant une image, après ou une photo de, parce que c'était prise, la photo, d'un bon moment, de manière un peu de montrer la fragilité, et ça touchait des gens. Oui, ça a changé, oui. Ça a changé sur l'immigration. Je ne sais pas si ça a changé sur l'immigration des Syriens, mais ça représente toujours, en fait. Finalement, la photo, c'est un peu l'art. Quand ça touche les gens, tant mieux, je veux dire. Mais quand c'est joué à une échelle limitée, après, on arrête de parler et on oublie tout ça. C'est ça, le problème. Il faut toujours un flux d'art, des résistants, d'influenceurs dans le bon sens pour ne pas arrêter de parler. Et ça, c'est, je pense qu'il y a des gens qui font ça, heureusement.
Tous les Syriens aspirent à partir, poissons fuyant l'eau puante, quitte à se retrouver dans l'air. Celui qui se noie au fond de la mer, voit-il la coque du bateau comme nous, en vie, nous voyons le ciel? Un homme, au fond de la mer, regard perçant les érosions de lumière, poumons saturés d'eau, peau remplie d'effluves de poissons. Couché sur le dos, face à toutes les cigognes, cou ondulant, Posidonie et lichen vert et scintillant, eau étendue à l'infini, étoile en phosphore, sang au goût de sel et de safran. Un homme, blotti au fond de la mer, voit-il la coque du bateau comme nous, lorsque nous voyons le ciel bleu, en plein jour, en pleine vie. Un homme au fond de la mer. Un trou vers l'éternité. Une perle en chair et en pierre.
Dans ton poème, il y a une forme d'agonie générale. L'eau n'est plus vivable pour les poissons, l'air ne l'est plus pour les humains, et le monde devient inhabitable pour chacun, chacune dans son propre élément. Donc il y a une espèce de renversement des milieux de vie.
En tout cas, c'est des images différentes qui sont comme c'est un appareil photo qui prend la mer et la vie et la rencontre entre un Syrien ou un immigrant ou un être humain et la mer, mais dans un aspect un peu catastrophique. Pour sortir un peu de poème. J'ai écrit récemment même un poème pour dire... c'était un poème d'amour, hein, je pense, un truc qui lui ressemble, parce que des fois, on écrit sur l'amour par envie de résister à la guerre ou à ses conséquences. Mais j'ai dit aussi, je supporte pas les poissons qui sont noirs, en fait. Du coup, je pense que j'ai cet élément-là dans mon imaginaire de renverser les choses. Pour savoir où est-ce qu'on peut arriver. Des fois, il y a la force intérieure que je vois les choses renversées. Cette force dans l'écriture ou dans la vision qui me pousse à écrire. Un truc qui me les tripe, en fait, qui bouge. Et j'ai envie de... Je vois les choses différemment. Et j'essaye de traduire ce que je ressens, ce que je vois pour voir, en fait. Si on change le lieu des choses, c'est pas exprès, mais je pense que c'est une méthode pour avoir des résultats poétiques. Comme la mathématique, un peu. Ça veut dire, si on change 1 plus 1, c'est pas 2, mais essaye de voir et je pense que c'est jouer, en fait. C'est jouer par la colère, par l'imaginaire, pour trouver des nouvelles équations. Voilà, c'est là, par rapport au fait que tu peux pas supporter là où tu y es, c'est une question de dépression, en fait, aussi. Parce que j'ai vu récemment que dans le monde arabe, peut-être il y a 22 pays arabes, les Syriens, c'est les plus dépressifs actuellement, c'est-à-dire en 2026. Du coup, cette question, c'est la guerre, c'est pas que la violence qui a certaines régions ont vécu, mais c'est tout ce qui est l'insécurité, l'incertitude, l'envie de partir, l'envie de rester, l'impossibilité de partir, le flux de départ très intense comme ça, parce qu'avant, on n'avait pas ça. Avant cette crise, cette révolution, cette guerre, peu importe quelle définition, mais qui a donné ce flux de départ très intense, les Syriens n'étaient pas habitués à quitter leur territoire. Du coup, ils se sont trouvés maintenant divisés dans plusieurs pays. Et surtout, tu ne peux pas demander un visa migratoire comme il n'y avait pas d'ambassade. Du coup, il fallait aller par la mer. Ou à un moment donné, l'Allemagne, par exemple, elle a ouvert le droit d'accueil. Du coup, c'était facile, mais c'était un an. Vraiment, ils ont ouvert l'accueil pour les Syriens, les Allemands. En Allemagne, pour cela, il y a beaucoup de Syriens en Allemagne. Et tu cours contre le temps. Il faut toujours capter une opportunité ou pas. Tu dois décider de partir par la mer ou pas, alors que tu n'es pas habitué. Si tu restes, tu vas regretter et ça laisse une dépression, que ce soit ici ou là-bas.
Novembre 2021. Fabrice Légéry est à la tête de l'agence Frontex depuis 6 ans. À l'époque déjà, ses méthodes sont contestées. Le patron des gardes frontières européens a beau dénoncer une cacophonie juridique au sein de l'Union européenne, plusieurs ONG l'accusent de fermer les yeux sur des refoulements illégaux de migrants, appelés pushback, de la part par exemple des autorités grecques. Un an après, il démissionne, se lance en politique en France et est élu eurodéputé Rassemblement National en 2024. Après des années de procédure, il est visé par une enquête pour complicité de crimes contre l'humanité et torture. Sa politique aurait conduit à la mort de milliers de migrants.
On ne peut pas prendre la décision sous prétexte d'éviter que ces personnes touchent la terre ferme et demandent l'asile. On ne peut pas les rebalancer dans l'eau en prenant le risque qu'elle sombre corps et biens. Il n'y a rien qui le justifie, ni le droit, ni l'éthique, ni la morale. Au contraire.
Et alors, dans ce texte, la mer est à la fois un lieu de mort et presque un ventre aussi originel. Tu fais aussi de l'eau un espace d'enfermement. Puisque dans un autre poème, tu dis que les enfants se baignent dans les lettres enfermées dans l'encre. La Méditerranée, qui est souvent racontée comme une frontière, toi, dans ton poème, elle devient presque le monde entier.
Je pense que c'est intéressant dans la poésie. Je sens vraiment avoir conscience de faire un monde, tout un monde d'un élément et voir qu'est-ce que ça passe à l'intérieur de cet élément-là. Et je trouve que c'est très intéressant de parler objectivement de quand tu proposais le fait de faire de la mer un monde. Alors, déjà, la mer, ça peut s'imposer sans vraiment avoir cette théorie ou cette méthode comme un monde poétique. Mais si on passe sur la surface, ça peut rester superficiel. L'écriture ou le registre poétique ou littéraire ou peu importe, philosophique. Dans ce que j'ai fait sans vraiment réfléchir en amont, c'est d'essayer de prolonger et voir qu'est-ce qu'il y a avec ma caméra. Je veux dire, avec ma caméra qui mesure peut-être les tensions, les images, de capter des belles choses à côté des catastrophes. Parce qu'on reste dans un milieu qui est beau aussi. Quand on parle de le bleu, tout ça, on reste dans un milieu qui est rassurant, mais où il se passe des choses qui ne sont pas rassurantes. Et tu penses cette contradiction, c'est ça qui fait la tension poétique. Vraiment ça, sans réfléchir, mais je pense que c'était ça l'idée. Parfois, au-delà de tout ce qui est surface, des choses, de la beauté qui brille, il y a peut-être des choses qui se passent à l'intérieur qui font mal, dans ce ventre qui peut absorber, qui peut dévorer des gens, qui peut dévorer et cacher en fait, presque cacher les catastrophes. Donc, cette contradiction aussi qui vraiment peut déclencher beaucoup des imaginaires poétiques pour moi.
Je roule la nuit, j'évite leurs yeux. Le cœur fermé, je parle avec eux. On voulait tout sans faire de bruit. Maintenant je compte, mais je vis plus. Les mêmes pensées tournent encore. Même en haut, je me sens dehors. Je trace ma route sans direction. J'avance seul, sans horizon. Frontière dans ma tête. Deviens lent, tout m'arrête. Frontières, je les vois partout. Même dans la lumière, je vois plus rien du tout. Frontières dans ma tête. Je monte mais je tombe en même temps. Frontières, je peux pas fuir. Même quand je respire, je me sens partir. Les nuits défilent, je compte plus rien. Même entouré, je suis jamais bien. Je vois leur regard, mais je réponds pas. Je préfère le vide au blabla. On a tout fait pour s'en sortir. Maintenant je vois tout se détruire. Même si je gagne, je peux tout perdre. Je garde la dalle sans repère. Tout devient lent, je perds le contrôle. Même le silence prend la parole. Je ferme les yeux, je quitte le sol. Je me sens partir sans boussole. Frontière dans ma tête. Deviens lent, tout m'arrête. Frontières, je les vois partout. Même dans la lumière, je vois plus rien du tout. Frontières dans ma tête. Je monte mais je tombe en même temps. Frontières, je peux pas fuir. Même quand je respire, je me sens partir.